Bonsoir tout le monde, vous êtes dans le Freak Show comme tous les mardis et en direct sur Canal B maintenant pour 1h30. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir.
Bonjour, comment va-t-il ?
Ça va bien. Un peu de soleil ce week-end, ça a fait du bien.
Eh bah oui.
Enfin.
L'été indien peut-être arrive. On est bien content. On parle toujours de météo, c'est un petit hommage à Evelyne Delia.
C'est qu'on est vieux et
paix
con,
à son âme.
Tout.
Elle n'est pas morte la pauvre. Ce soir, on est ravis et comme tous les mois de septembre, de toute façon depuis 3 ou 4 ans, on reçoit Courmétrange, on reçoit Steven.
Oui, bonsoir.
Bonsoir,
nous sommes toujours
Steven.
Très très heureux de nous retrouver devant vos micros.
Et bah,
plaisir partagé.
On adore t'écouter, narrer toujours des anecdotes et des choses sur le cinéma. Et puis tu as changé de binôme cette année, puisqu'on fait un gros bisou à Cyrielle. Vous vous ressemblez presque, hein.
Deux, trois
petites différences capillaires, par exemple. Et de barbe, Benoît.
Eh ben, enchanté.
Enchanté. Tu vas nous raconter qui tu es dans le Festival Courmétrange. Cette année, le Festival Courmétrange fête des 20 ans. C'est quand même un sacré anniversaire. Une programmation encore de dingue. On va décortiquer ça. Et bonne nouvelle, on a 1h30. Donc, on va avoir largement le temps de parler cinéma. En attendant, eh bien, nous, on n'avait pas trop de nouveautés cette semaine, hein, l'un comme l'autre, à passer. Donc, on s'est dit, vas-y, on va aller dans le thème cinéma. Donc on va vous passer des morceaux de cinoche, des morceaux de documentaires, moi pour ma part que j'ai pas arrêté de binge-watcher ce week-end. Et on commence par un que j'ai adoré, raconté par ces grandes figures, des activistes et des historiens, qui s'appelle Fight the Power. C'est un documentaire en 4 parties sur les racines et les ressorts politiques du hip-hop depuis 50 ans, qui passe sur Arte en ce moment. Alors on parle tout le temps du punk 77 et pourtant on ne devrait pas autant nier son frère ennemi, il y a qu'à le hip-hop 79, car oui, c'est en 79 qui a vu le jour non pas sa musique mais tout son mouvement par un Jamaïcain nommé DJ Kool Herc qui, avec sa sœur, organise régulièrement des soirées chez lui dans le Bronx. Un jour, il décide de faire la même chose mais dans un parc de son quartier. Ici naît ce que l'on appelle les fameuses block parties. Ce soir-là, en 79, il fait découvrir à la populace new-yorkaise l'usage de la double platine, du double break. Et c'est parti pour 50 années d'histoire folle derrière que je ne veux pas vous spoiler parce que le documentaire est ouf. À part une chose, le morceau qu'on va écouter maintenant qui passe à ce soir de 79 qui me rend dingue et qui fit la même chose aux centaines d'Américains lors de cette soirée. On écoute Babyroot avec The Mexican.
preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Passing Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
Comment parler bande originale sans évoquer Quentin Tarantino, qui a toujours eu un grand soin à ses BO, plus qu'à ses films hein, d'ailleurs. Hein, bon, c'est un
point de vue,
c'est un point de vue perso. Mais,
d'accord, voilà, sauf ce film, Pulp Fiction est quand même
son
un
dernier bon film
du
pour moi, c'est celui qui a suivi Pulp Fiction, c'est
Jackie Brown.
Jackie Brown, après tout ce qu'il a fait, je n'aime pas.
Mais ah ouais
c'est, ah non, je...
D'accord. Ben, y a un film sur l'esclavage qui sort bientôt, là, qui est énorme d'ailleurs. Hein, je ne sais pas, le réalisateur, c'est son premier film, je ne sais pas si vous en entendu parler. Je l'ai vu dans C'est à vous cette semaine, qui est assez violent. Et
désolé,
c'est Benoît Magimel
qui... Je regarde Cyril Hanouna, moi. C'est pas...
Ah oui, bah oui, c'est vrai.
Bah ouais, hein.
Bah, on se partage
bien sûr que non. Hein.
Et en plus, il se justifie.
Ah bah oui, quand même.
Et c'est vrai que dans C'est à vous, je ne sais plus qui disait qu'elle ne peut pas regarder ce... Qui c'est qui joue dans ce film d'ailleurs qui va sortir? Il y a Benoît Magimel, Camille Cotin, qui a pris la grosse tête d'ailleurs, et qui ne peut pas regarder un film de Tarantino. Et je suis d'accord, qui s'appelle Django sur l'esclavage, et qui pour moi, il est dur. Il est horrible à regarder. Et pourtant, j'aime bien regarder plusieurs fois les Tarantino, mais alors celui-là, je ne sais pas. Moi, derrière, j'ai adoré celui avec, je ne sais jamais le titre, avec DiCaprio. La BO est incroyable.
Bah c'est celui-là, c'est Django Unchained avec DiCaprio.
Non, mais celui qui est plutôt funky. Non, il n'y a pas DiCaprio dans Django Unchained.
Absolument que si, bien sûr.
Ah bon ?
Ah oui, il a un rôle tout à fait détestable.
Moi, je me souviens juste... Ah ouais ?
Ah oui, non.
Et puis, il y a les fameuses anecdotes de cinéphiles. Le sais-tu que quand il casse le verre, en fait, c'est son vrai sang qui coule. Enfin, bon, tu l'entends partout, celle-là.
Pourquoi tu vis Macron quand tu...
Ouais, non, mais c'est tu montes une chaîne YouTube de cinéma, il faut que tu parles des anecdotes, et c'est celle-là qui revient en premier, avec aussi le pied de l'autre qui se casse dans le Seigneur des Anneaux.
Ah là là,
voilà.
D'accord, ok.
Mais si.
Tarantino, on en parlera tout à l'heure encore. Et juste avant, donc, je rappelle, c'était Babéroute. Et je voulais quand même, avec The Mexican, magie de la musique quand même. On recontextualise, on est en 79. C'est ce morceau, celui d'un groupe de rock anglais qui fut l'un des plus influents de la culture musicale hip-hop. Je trouve ça merveilleux. Voilà, je voulais rajouter cela. Maintenant, on passe au sérieux. On passe à nos invités qui s'endorment avec nos chroniques. Bah ouais, maintenant qu'on a 1h30, on est vachement plus long. Je perds mon micro. 20 ans de court-métrage. 20 ans, nous ça fait que 4 ans qu'on se connaît. Toujours déjà des affiches aussi dingues, très très joli gâteau. Je ne sais pas si c'est l'IA qui a fait ça, mais moi j'adorerais avoir un gâteau d'anniversaire pareil. On est toujours sur Kérosène.
On est toujours sur, on travaille toujours de manière très étroite avec l'agence Kérosène. Là, en l'occurrence, ils n'ont absolument pas recouru à l'IA. Ils l'avaient fait auparavant, ils l'avaient fait l'année dernière. Ils l'avaient annoncé très, très loyalement. Ça a été l'occasion de discussions assez passionnantes dans le monde dans le monde du graphisme. Non, là, en l'occurrence, ils se sont attelés à la tâche avec les méthodes les plus artisanales et les plus... Encore, est-ce qu'on peut parler d'artisanat ? Je ne le sais pas, puisqu'il y a toutes sortes, effectivement, d'applications qui sont en usage dans le monde du graphisme. On pourrait même parler de Photoshop. Photoshop, c'était déjà quelque chose qui avait provoqué...
Qui était controversé, déjà.
Des remous absolument terribles. Après, bon, notre rapport à l'IA, ça ferait l'objet d'une... d'une énorme émission.
Et oui, 4h30. Toujours est-il que nous, on adore vos affiches. Les petites mouches, en plus, au milieu, de chaque côté, sont le petit détail qui tue. Enfin, c'est toujours des affiches qu'on a envie d'afficher chez soi, dans un cadre. Voilà pour l'affiche de Courmétrange. On part du début. On continue avec le dossier de presse que j'ai reçu. Et d'ailleurs, je remercie Géraldine Kans, qui est votre chargée de communication.
Notre attaché de presse.
Qui dit tous les mordus de l'étrange, donc dans votre dossier de presse, de l'insolité, du fantastique, sont attendus à Rennes, donc du 26 septembre au 6 octobre, pour souffler les 20 bougies du festival. Au menu de cette édition qui célèbre deux décennies de voyage aux confins de l'imaginaire, rétro, best-of, bilan et gâteau. Il y aura un vrai gâteau ?
Il faudra venir pour savoir.
Il faudra venir. Donc toujours inauguration le 25 septembre, le mardi ?
Non, ce sera le 1er octobre.
1er octobre, une inauguration rétroactive.
C'est l'inauguration de la compétition officielle.
Ah ouais, d'accord, ok. Dans l'édito du dossier de presse, on commence par situer, il y a 20 ans, vouloir fêter le fantastique par le biais du court-métrage relevait d'un pari insensé, voire d'une provocation intolérable à l'endroit du bon goût officiel qui nous était dicté de plus haut. En 2024, il se passe quoi avec ce genre d'édito ?
C'est une question hautement pertinente, effectivement. J'ai vraiment l'impression que le fantastique a désormais acquis une espèce de légitimité, même auprès de tous ceux qui auparavant pouvaient lui résister. Et puis on a vu aussi le public s'exprimer très très naturellement, très spontanément par rapport à toutes sortes de programmes, notamment des séries, où il a affiché son engouement, son envie, son désir d'aller voir ailleurs que ce qu'on lui proposait habituellement. Là, je sens que je suis en train de m'emballer, de m'embarquer, je ne sais où.
Non, on adore t'écouter. Vas-y.
Merci. Non, mais moi aussi, j'écoute ma voix, mais je me rends compte qu'il n'y a pas forcément beaucoup de contenu. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a quand même un regard un peu différent qui est posé maintenant sur le genre, terme toujours difficile à manier. Je crois qu'il a, encore une fois, acquis une forme de légitimité, parce qu'on a compris qu'il allait bien au-delà de ce qu'il affichait en vitrine, qu'il allait creuser en certains endroits de notre monde, de notre vie, de nos angoisses, et qu'il le faisait bien à sa manière, avec ses propres lunettes. Voilà, il regardait la vie autrement, et voilà.
Est-ce que le fantastique, il n'y a pas un côté quand même un petit peu nostalgique, toujours d'avant ? Je pense par exemple à toi, Steven, tu nous as envoyé des morceaux musicaux de films qu'on n'a pas pu passer, mais tu vas voir, j'ai des surprises quand même pour toi. Et donc des morceaux de films qui sont lents par la musique, etc., on passera dessus. Moi, ce que je voulais voir, c'est ce que tu m'as donné, c'est des films qui sont quand même, il y avait Scanners, il y avait Cronenberg, du coup, etc., un peu plus vieux. Est-ce qu'il n'y a pas cette nostalgie quand même du fantastique qui c'était mieux avant ?
Ah non, jamais. Non, c'est pas une posture que moi je me permettrais d'adopter. J'ai pas envie.
Bah encore heureux.
Voilà. Ou alors peut-être que je l'ai fait de manière tout à fait inconsciente. Et là, il y a une forme de révélation
non,
pour moi. Il faut que je m'interroge.
Tu nous envoies des morceaux de vieux films qui sont peut-être iconiques pour toi. Alors du coup.
C'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, oui, tu as raison. Je pense que effectivement, ce sont des films qui ont pesé, qui ont été importants pour moi et. J'ai eu un réflexe tout à fait affectif, absolument sensible, absolument pas réfléchi. Non, mais je te remercie de souligner cet aspect de la question. Je vais essayer de m'interroger moi-même là sur cette problématique.
Je me souviens un truc, il va pas dormir de la nuit, le gars.
Je suis pas bien.
On va justement parler de nostalgie parce qu'on va faire une première pause musicale. Alors, dans tes propositions musicales, tu m'avais suggéré Predator, un morceau, le thème de Predator qui, radiophoniquement, était un petit peu compliqué à passer. J'ai cherché quand même. Tu sais que quand on tape la BO de Predator, il y a deux morceaux, c'est-à-dire le thème, et un morceau qui est apparemment dans Predator, parce que je t'avoue que je ne l'ai pas vu. Tu l'as vu, Thibaut ?
Oui, il y a longtemps.
Bah, c'est Long Tall Sally. Little Richards.
Oui, Little Richards. Mais en fait, il est écouté par la bande de mercenaires qui va venir s'aventurer dans cette jungle épaisse, opaque en Amérique du Sud. On ne situe pas exactement le pays. C'est là qu'ils vont rencontrer le Predator. Et dans l'hélicoptère qui les emmène, ils écoutent ce morceau. Avec beaucoup de goût, avec beaucoup d'appétit.
Ouais, je pense qu'à mon avis, quand tu sais que tu vas te faire bouffer, peut-être t'écoutes Little Richard.
Non, il ne le savait pas à ce moment-là.
Ah, il ne le savait pas. On écoute du coup Little Richard avec Long Tall Sally. J'ai maté beaucoup de docus musicaux, comme je vous disais, merci Arte, et notamment celui dont tout le monde parle en ce moment, celui sur l'histoire qui s'est arrêtée bien trop tôt de DJ Mehdi. C'est ce qu'on vient d'écouter, Pony Walking. Alors il a été un pionnier du rap, puis un pionnier de l'électro, un producteur de génie, un DJ renommé. C'est un artiste qui a laissé une trace dans les mémoires par son talent, par sa gentillesse. C'est énorme ce documentaire. Thibaut, tu l'as vu aussi.
Ouais.
On a pris une claque monumentale, on a pleuré. C'est un truc de ouf.
J'ai pleuré. Je vais pas mentir, j'ai pleuré.
Putain, j'ai pas envie de le perdre en fait, ce gars-là.
Et puis, je t'avais raconté sur Facebook, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de croiser les membres de Headbanger.
Ouais.
Vu que je travaillais sur un festival qui s'appelait Nordic Impact, paix à son âme. Voilà, et en 2010, j'ai eu la chance, une fois de plus, de m'occuper de toute la clique Headbanger. Et là, c'était carte blanche, donc c'était Mehdi et Riton qui étaient là.
C'est énorme.
Avec Breakbot, et je me vois encore dans ma voiture les trimballer dans le camp. Enfin. Sortir des conneries. Ils sont vraiment ce que tu vois dans le documentaire. En fait, c'est pas. Ils étaient fondamentalement gentils.
Ouais.
Tous, autant qu'ils sont, Breakbot et compagnie, je les ai recroisés plein de fois sur d'autres festivals, y compris le Made. Ils sont égaux à eux-mêmes.
À Breakbot, je les ai servis aussi au Made. Ils sont adorables.
Ils sont adorables.
Ouais.
C'est des vrais. Toute la bande, là, c'est. Voilà. Et puis, paix à son âme, parce que c'est que ça. Moi, c'était juste pile poil un an avant son décès.
Mais voyez ce documentaire parce que DJ Mehdi, en fait, même culturellement pour vous, si vous n'êtes pas rap, et c'est ce que je disais hors antenne à nos invités, culturellement, quand on s'intéresse un minimum à la musique, ça va vous apprendre énormément de choses. Et c'est fou que DJ Mehdi, qui a démarré à 14 ans avec Kerry James, qui est méconnaissable d'ailleurs, qui démarre le rap dans une cité, c'est fou, hein. Mehdi est méconnaissable aussi, démarre en lançant cette énorme bande de la mafia Kinfri qui est. Enfin, c'est énorme. Les mecs viennent en studio avec des guns, etc. Il a été beatmaker, producteur des plus grands groupes de rap français. Et à un moment, même si c'était la guerre à l'époque, dans les années 90-2000, entre techno avec les petits français parisiens blancs bobos qui prennent de la coke, comme il disait, et les mecs de Tessie qui font du rap, Mehdi, il a réussi à lier les deux. Et ce qui, je spoil pas, mais ce qui se dit à son enterrement, c'est que putain, c'est énorme le nombre de gens qui l'aimaient à ce gars-là et le nombre de gens qui l'a réuni entre électro et rap. J'en ai des. Je vais me mettre à pleurer. C'est énorme. Voyez le documentaire, il est incroyable.
Pour
votre culture, il est incroyable.
Incroyable, vraiment.
Voilà.
C'est ultra bien réalisé.
Tu n'en ressors que plus intelligent.
De ouf,
des images d'archives,
des archives
qu'on n'a jamais vues. Voilà.
C'est du docu de. Très haute qualité.
Très haute qualité.
On va pas se mentir, pour une fois, c'est pas pour une fois, il y en a plein de bonnes qualités, mais celui-là, il est vraiment dingue.
Et cette chance de revoir Cassius réuni, alors que lui aussi est mort dans des conditions
dans
aussi tragiques et pourries que DJ Mehdi.
Dans les mêmes conditions.
C'est incroyable. Voilà. Voyez-le, mais bon, en même temps, si vous n'avez pas de réseaux sociaux et que vous vivez dans une grotte, vous n'en avez pas entendu parler. Si vous avez des réseaux sociaux, c'est partout. Tout le monde dit, allez voir le documentaire. Donc voilà. On reste un petit peu dans le documentaire qui est loin un petit peu de Court-Métrange, mais ça y est, on va parler de Court-Métrange quand même. Alors, on démarre le mercredi 25 septembre par une petite journée, quoi. Comment ça démarre, Benoît, un petit peu ce festival ?
Eh bien, avec une carte blanche. Une carte c'est blanche du Ciné Tambour. Donc, les élèves du club ont préparé une programmation avec deux films qui ont 20 ans d'écart et qui va permettre de voir aussi l'évolution entre ces deux films. Donc, au Ciné Tambour le 25.
Long métrange.
Ouais, long métrange.
Ah, bah vous faites un petit écart.
Ça fait plusieurs années qu'on fait ce petit écart, mais ouais, cette année il est un peu plus grand même.
D'accord. Donc on démarre à 18h15 avec Les Innocents de Jack Clayton.
Oui.
Qui est plutôt quelles années, quel genre de...
Ah, c'est un classique des années plutôt 50.
Ah ouais, donc on est old school là ce soir-là.
Absolument, qui fait froid dans le dos et qui est extrêmement, mais c'est une réalisation au petit poil et ça reste absolument passionnant quelques 60 ans plus tard. Je sais pas comment dire. Voilà.
Et puis Alfred Hitchcock à 20h. On enchaîne,
oui,
quoi.
Rebecca, Manderley, et ainsi de suite. Un énorme classique aussi. C'est une autre manière d'aller, d'aller chatouiller, d'aller caresser la question fantomatique. Et Alfred Hitchcock le fait avec toute l'intelligence, toute la subtilité qui est la sienne, sans entrer, avec des airs de ne pas entrer dans le fantastique et pourtant de se laisser complètement envahir par lui.
Tout ça, c'est au Ciné-Tambour et ça démarre comme ça le festival.
Exactement.
Évidemment, le village est toujours au même endroit.
Place Charles de Gaulle.
L'année dernière, on avait le droit à un mardi soir à un beau temps. On était dehors, on buvait des coups. C'était une super inauguration. Toujours la même chose. Est-ce qu'il y a des nouveautés?
Le beau temps, j'espère qu'il y a des canapés. Il y aura des canapés et le village, cette année, est présent sur les 11 jours du festival. Donc l'année dernière, il n'était que sur la deuxième semaine, la grosse semaine du festival.
Ouais.
Et là, il est vraiment présent sur les 11 jours. On commence le montage demain.
Ouais.
Et dès le jeudi 26, le village sera présent.
Est-ce que sur le village, du coup, parlons pratico-pratique, on peut y retrouver les ventes des billets? Est-ce qu'il y a toujours... J'ai plusieurs questions, attention. Est-ce qu'il y a toujours des ventes d'artisans et de petites choses un peu fantasmagoriques? Parce que vous avez un petit village de vendeurs aussi. Mes mots sont hyper... pas approximatif, mais racontez-nous ce qu'il y a sur ce village.
Alors dans le village, il y a la deuxième édition du marché Métrange, donc avec les exposants, des artistes et artisans qui
font des choses cheloues.
Ouais,
Métrange.
Fantastique.
Ouais.
Donc il y a 19 exposants qui seront présents, donc deux fois plus que l'année dernière.
Ah ouais. Ouais.
Donc il y en aura pour tous les goûts.
D'accord.
Il y a le bar, bien évidemment.
Bah oui.
En partenariat avec la brasserie Louarn.
Oh, d'accord. Donc,
super bière. On aura notre petit kiosque pour retrouver tout le merch du festival.
Qui est toujours chouette.
Toujours. Avec des nouveaux t-shirts cette année qui vont être...
Grande taille ou pas?
Il y a de tout.
Ah, attention. Grande taille, c'est grande taille ou grande taille?
Grande taille.
Ok, d'accord. Okay.
Parce que les autres années, il n'y avait pas.
Est-ce qu'il y a toujours le photobooth qu'il y avait l'année dernière,
ouais,
qui était drôle?
Okay. Il est toujours là, c'est un classique.
Ok, bien. Alors du coup, jeudi 26 septembre, on commence au village à 16h, ça s'ouvre et il y a des expositions.
Ouais, c'est notre soirée queer métrange, donc avec une exposition avec Katerina Franzi qui est une photographe qui fait plein de photos de drag, donc des super chouettes photos qu'on pourra avoir. Il y a une séance au TNB qui s'appelle queer métrange, donc avec des courts métrages queer qui est en compétition prix du public.
Ouais.
Et pour clôturer cette chouette soirée, il y a un drag show avec six drag queens qui vont venir mettre le feu.
C'est une c'est une asso, c'est une...
Non, c'est différente.
C'est différents drag que vous avez choisis, parce qu'ici il y en a beaucoup quand même.
Oui. Avec Aaron Azur du coup qui gère ça.
Comme vous avez fait l'année dernière, oui. Déjà. D'accord. Ok. On fait une petite pause musicale. Hein, je crois.
Ouais.
D'accord. On est un petit peu perturbé parce que je crois qu'il y a un téléphone,
qui sonne en
derrière nous. On fait une pause avec David Cronenberg's Wife. Alors pourquoi? Parce que du coup, toi, Steven, tu m'avais suggéré un morceau de Scanners et qui était pareil, un peu compliqué à passer. J'ai fait des recherches un peu débiles et je suis tombée sur ça. Je pensais que c'était vraiment la femme de David qui faisait un groupe. Non, pas du tout. C'est un groupe londonien et en fait, c'est pas dégueu. On va écouter Sully's House et tu me diras ce que t'en penses.
We'll be right back. a little story about the time I went to Sully's house. I went to Sully's house to watch. She had just made a cup of herbal tea, the back twirling as she pulled it out from a steaming mug, which she stirred with a knife. She ate a few mouthfuls of cold lentils from a bowl, using an oriental spoon which clicked against her teeth. A punnet of chives grew on top of the fridge. She takes out a tiny bag from a drawer. Step one, put a few grains on a spoon. Step two, add a little water from a syringe and a pinch of sodium bicarbonate. Step three, heat the spoon. The liquid will become clear. Step four, put a cigarette filter on the spoon to absorb the fluid. She looks around, finds an old one, relatively clean. Step five, put the needle in the filter, fill up the syringe, she ties off the arm. You know the rest, she misses once then hits, a drop of blood in the syringe. I leave soon after, when the bass player of Bad Manners arrives. Give me sharp edges, give me salt, wet leaves, the spine, the smell of old butts. Hello everyone, we're David Cronenberg's wife.
Eh bien, c'était Roy Ayers, puisqu'on est dans les musiques de films qu'on kiffe, impossible de pas passer. Eh bien, à côté de Roy Ayers, figure incontournable du funk, soul, jazz, mais aussi icône musicale des bandes originales de la Blaxploitation. On retrouve aussi Aragon sur la génialissime BO de Jackie Brown, figure également de la Blaxploitation. Il n'y a pas de hasard, puisque Pam Grier, c'est la figure de la Blaxploitation.
Et je le replace là, dernier bon film de Quentin Tarantino.
Dernier bon film. C'est ça que tu avais dit, c'était pas Pulp Fiction que tu voulais dire?
Non, après justement, c'était pour moi.
Et que tu disais du coup hors antenne que toi aussi pareil. Hein,
Ah oui, je m'autorisais à dire effectivement que Jackie Brown est le chef-d'œuvre. Mais non, mais ça témoigne de, tu vois, de la retenue aussi qu'il est capable d'avoir et du respect aussi qu'il avait à l'égard du roman original, oui, tout à fait, j'allais dire originel, mais pourquoi pas. Mmh. Et il s'était expliqué sur la manière dont il avait traité la violence, notamment. Il n'était plus dans cette représentation graphique de la violence, tout simplement parce que ça n'apparaissait pas dans le roman. Et il était resté là, avec ce rapport un peu distancié. Finalement, on n'en a pas eu besoin de cette violence-là, mais par contre, des portraits, des personnages qui sont magnifiques. Quoi.
Ouais.
Magnifiques.
Ouais, le grain, tout est...
Tout, mais il n'y a pas un seul plan qui n'est pas réfléchi avec une attention, une attention et un amour même. Quoi. Dans Jackie Brown, il y a une espèce de magie qui circule du générique, du post-générique jusqu'au générique final. Quoi.
Mais c'est là où tu vois que Tarantino, il adore ses acteurs et quand même, il leur rend hommage. Quand tu vois le rôle de Niro, qui est absolument pas du tout violent, ce qu'on lui veut toujours. Bon, maintenant il a fait Mon beau-père et moi, donc il s'est tué. Mais c'est le côté douceur, c'est vrai. Quand même, quand il est là à faire chier son chat dans son camping-car, c'est qu'il a touché le fond de Niro. Il a besoin de thunes, pourtant il en a pas besoin. Donc voilà. Mais quand tu le vois, je pense que c'est là où s'est achevée la carrière de Niro. C'est dommage, mais on adore. Robert, Bob, on continue avec les 20 ans de... On continue ou il y avait un morceau qu'il fallait que tu désannonces ?
Non.
Non, d'accord, je suis perdue tellement. Nous, il va falloir que vous habituiez les gars, parce qu'une heure et demie, il y a tellement de morceaux que maintenant on va être un petit peu désemparés. On est toujours à parler des 20 ans de court-métrage qui auront lieu du 26 septembre au 6 octobre. Le village aura toujours lieu sur la place du général de Gaulle, Charles de Gaulle. Est-ce qu'il y a des choses, on va aller au raccourci, qui changent cette année par rapport aux autres années ? Est-ce qu'il y a des nouveautés ?
Il y a des nouveautés.
Ah !
On organise le premier week-end le marché de l'Innovision, petit jeu de mots, où on aura des partenaires qui vont venir présenter du coup leur structure et en lien avec l'image, du coup, ça fait sens, et les innovations technologiques. Donc on a le laboratoire Irisa qui va présenter trois stands de réalité virtuelle, donc il y aura trois voyages différents à faire, il y aura un atelier fond vert avec la compagnie Artefact, l'école Creative Seed qui viendra présenter leur projet, et l'université de Cesson-Sévigné qui viendra présenter leur vidéoprojecteur à l'énergie solaire.
Waouh ! C'est quoi le fil rouge du coup et le but d'amener tous ces intervenants, c'est de montrer un petit peu la technologie qu'il y a maintenant dans le cinéma.
Et que le fantastique apporte du coup a besoin de cette image et de cette technologie.
D'accord. Et qu'il recrute ? Un peu comme l'armée de l'air qui a besoin de personnes en ce moment.
Exactement.
Le cinéma aussi.
Et oui.
À d'autres corps de métier que vous pouvez découvrir.
Exactement.
Et c'est vachement plus fun que l'armée de l'air. Allez-y. Ok. en 20 ans, Steven ou Benoît, comment a évolué le court-métrage ?
Alors, le court-métrage, en 20 ans, à gros traits, là, comme ça, on va dire qu'il y a eu une telle démocratisation des moyens sur le plan technologique qu'on a pu voir des gens s'emparer d'outils qui, a priori, ne leur étaient pas accessibles auparavant, qui étaient vraiment le territoire réservé de la grosse production. Et maintenant, pour des raisons qui sont assez obscures et probablement commerciales, les grandes marques concernées par les caméras ont apporté des choses qui sont entrées dans les foyers. Et donc, ça a permis à toute une catégorie de jeunes et moins jeunes auteurs et réalisateurs de pouvoir s'exprimer. Et de toute façon, il y a une sélection naturelle qui se perd de toute façon. On peut donner les meilleurs et les plus grands moyens à un imbécile, il ne sortira qu'un film complètement idiot. Ça n'a pas de...
Coucou,
c'est pas
Danny
la technologie. Je ne pensais pas à lui, mais finalement, ça manque pas de pertinence.
Et le pire, c'est que c'est le plus riche, putain, c'est ça qui est dingue. Oui.
Ça ne manque pas de pertinence. Et parce qu'on a très bien vu que dans le court-métrage, je parle du court-métrage plutôt
bien
dans
sûr.
Le fantastique, hein,
ouais.
Bien sûr. Et au-delà de ça, de toute façon, parce qu'il y a des boîtiers réflexes qui sont des petits appareils hein, dont on peut s'emparer comme ça et qui peuvent donner une impression de tourner ni plus ni moins qu'en cinémascope à l'ancienne, parce qu'en plus il y a des moyens de traiter cette image, de lui donner... Enfin bref, qu'importe, je ne vais pas entrer dans le détail parce que ça n'a pas de sens et c'est chiant, mais on peut donner effectivement un look, on va dire, voilà, on peut donner à son film, son court-métrage, un look de grosse production. Et ça ne suffit pas, bien entendu, il faut qu'il y ait des auteurs, réalisateurs, des autrices, réalisatrices derrière qui sont là, avec un regard, avec une signature, avec une envie, avec quelque chose à exprimer qui fait toute la différence. Donc voilà, c'est pas grave qu'il y ait plein de moyens, de toute façon... comment dirais-je, la sélection naturelle s'opère. Il y a des vrais, puis il y a des faux.
Alors, c'est pas grave qu'il n'y ait pas de moyens quand même, si tu as un peu de thunes pour faire un court-métrage, c'est quand même sympa.
Ah non, on est d'accord, on fonctionne dans une économie très très contrainte, hein, c'est très clair. Non, mais c'est bien effectivement d'être soutenu par une production, c'est important, ouais. Déjà, hein, c'est parce que ça permet un petit peu de cadrer le projet. On ne peut pas passer sa vie effectivement à dégainer une caméra et aller faire trois plans, revenir à la maison, se chauffer un chocolat, et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire, c'est... Quel est le sens de cette question-là? Tu avais besoin, il y a besoin effectivement de sous-sous, tu
penses? Moi, j'ai besoin de t'entendre parler. Mais non, tu disais, c'est pas grave qu'il n'y ait pas de moyens dans le court-métrage. Si, je pense que le gars qui veut réaliser son court-métrage, d'autant plus dans le fantastique, où il y a quand même un apport qui se paye, hein, qui se monnaie. Tout à l'heure, Benoît, tu parlais de toutes ces institutions de technologie qui allaient être présentes sur le festival. Ça vaut une thune monumentale. Si tu fais un petit court-métrage d'art et d'essai là, que tu vas présenter au Festival de Cannes l'année prochaine, avec trois pulls trouvés sur Vinted et puis Ludivine Sagnier, ça te coûte pas grand-chose, à part le salaire de Ludivine Sagnier. Mais voilà, si tu fais un court-métrage fantastique... Je pense que ça coûte de la
thune. Non, je suis tout à fait d'accord. En fait, je me suis mal exprimé. Ma phrase n'était pas bien formulée. J'ai dit, c'est pas grave qu'il y ait des gros moyens. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, c'est...
On ne sait pas.
Mais si, j'étais en train de dire très simplement que tous les moyens, enfin en fait, les moyens sont à la portée de tous et de toutes.
Ouais.
Et que de toute façon, l'important c'est qu'il y ait un regard, encore une fois, qu'il y ait un réalisateur derrière. Mais j'ai l'impression que j'ai dû me gaufrer un endroit là.
Chez vous, dans Courts-Métrages, il n'y a pas forcément que des courts-métrages pétés de thunes, il y a aussi des petits moyens, même un petit peu des nanars. Mais du moment que le scénario est là, on y va.
Ah bah du moment qu'effectivement, enfin encore une fois, du moment que le nanar est le projet, qu'il est assumé, que l'auteur, le réalisateur a conscience de la matière qu'il est en train de travailler et qu'il le fait bien. Eh bien, on se dit, ma foi, mais banco, mais viens donc, mon ami. Viens donc rencontrer le public, viens donc être vu sur grand écran plutôt que dans la petite fenêtre d'Internet.
Super. On fait une petite pause musicale. Cette fois, alors là, très très loin, tu m'as suggéré D'ailleurs, j'ai découvert plein de choses fantastiques. Tu m'avais suggéré un morceau que je n'ai pas trouvé, qui est introuvable en fait, d'un réalisateur italien.
Ah, Fabio Frizzi.
Fabio Frizzi, qui. Alors ça, c'est celui qui fait la bande-annonce, qui fait la musique, Fabio Frizzi.
Oui, Fabio Frizzi est auteur de la musique de plusieurs films de Lucio Fulci.
Ouais, voilà, exactement. Et Fabio Frizzi qui fait plein de choses, un peu à la Ennio Morricone, que j'ai adoré. C'est encore une fois, on a digressé, on est allé voir un peu plus loin. Je suis tombée en faisant des recherches sur Fabio Frizzi, sur un de ses potes, sûrement, qui s'appelle Gianco Nilovic, et on va écouter Gypsy Rock, et tu me diras ce que ça t'évoque.
D'accord.
Yeah.
Mais c'est old school à mort.
Ouais, il y a deux bandes originales qui ont marqué mon adolescence et qui ont marqué beaucoup de gens. C'est Judgment Night, un film très mauvais, mais dont la bande originale est absolument énorme. Donc c'était des groupes de métal en duo avec des groupes de rap. Donc t'avais le gratin des deux à l'époque. Là, en l'occurrence, c'était Living Color et Run DMC, mais tu peux retrouver du, enfin voilà, plein de groupes. Ouais.
Alors là, c'est retour en arrière total. Et écoutez mes frères.
Et l'autre BO, c'était Spawn. Un très mauvais film Marvel. Spawn, c'est Marvel. Voilà, mais par contre, c'est pareil, la BO était folle. C'était du métal et de la techno, enfin, les techno-électro. Donc, tu avais la crème de la crème des deux côtés. C'est des BO qui ont marqué énormément de gens, mais les films sont nuls. C'est voilà.
Mais Marvel ont souvent tendance à avoir des bonnes BO, mine de rien.
Ah, maintenant, oui.
Peut-être pour compenser avec le.
Mais là, c'était les années 90.
J'aime pas les Marvel. Mais oui. Ouais. Effectivement, on aurait pu aussi passer les BO des Gardiens de la Galaxie qui, quoi qu'on en dise, sont absolument formidables.
Ah oui, mais le film est bien aussi, donc ça va.
Oui, il y en a 4.
3.
Eh ben, je suis en avance. Il y a bientôt le 4e. On est toujours avec Courmétrange et les 20 ans. On n'a pas assez écouté Benoît, donc là, je vais te solliciter. Benoît, du coup, c'est quoi cette histoire de visite guidée étrangement braise au musée de Bretagne? Mais vous avez déjà fait ce genre de délire, ouais, mais vous aimez bien ça.
Ça fait plusieurs années qu'on fait ces visites étrangement braise, donc qui revient sur la collection permanente du musée, mais qui ressort des objets insolites en lien avec la thématique de l'année. Donc cette année, du coup, c'est plus en lien avec la jeunesse, l'enfant. Donc je crois qu'il y a une histoire de berceau, de choses un peu mythiques autour de naissance, de la jeunesse, tout ça. Et petite nouveauté cette année, c'est que ces visites sont accompagnées par des chansons. Donc il y a avec le conservatoire de Rennes, où ils viennent chanter des chansons en gallo, en français et en breton, sur des objets en particulier. Voilà.
D'accord. On n'a pas parlé encore, et c'est quand même important, les membres du jury, cette année, c'est qui?
Je commence par la présidente.
Oui, lance-toi, je t'en prie.
Donc c'est la présidente du jury et la réalisatrice Agnès Merlet, donc réalisatrice de films de genre. On a Jared Mann, si tu veux.
Non mais avant, par rapport à Agnès, j'ai réalisé tardivement qu'elle avait fait un film qui s'appelait Dorothy. Qui était particulièrement réussi et particulièrement dérangeant. Et c'est drôle, hein, un peu à retardement. Non, mais c'est grâce à Benoît qu'on a obtenu cette présidence. Donc voilà, je voulais juste le souligner pour l'anecdote. Voilà.
On a eu peur d'avoir une anecdote d'un quart d'heure et là, Benoît ne pouvait pas encore en placer une.
Non, et pour le clin d'œil avec Agnès Merlet, c'est qu'elle a reçu un Méliès d'argent, donc prix qu'elle va le remettre cette année elle-même maintenant à son tour.
D'accord.
Donc ça fait un peu la boucle est bouclée.
Ouais.
Donc c'est intéressant. On a aussi du coup Jared Mann, qui est le directeur et fondateur du festival Spasme à Québec.
Oui, alors là en l'occurrence c'est parce qu'on l'a rencontré à Montréal l'occasion du festival Fantasia, et c'est vraiment le festival cousin de Courmétrange là-bas, c'est pour ça. Voilà. On s'est retrouvé absolument sur tous les terrains, on s'est dit Jared, tu viens à la maison tout de suite.
Bah, Jared, c'est bon quoi.
C'est la classe.
Arrête quoi, elle était trop facile.
On a Bénédicte Bourgois, qui est la chargée des courts-métrages de la RTBF. On a Xavier Jans, réalisateur de Sous la scène, qui on a entendu un peu parler un petit peu cette année.
Ouais.
Le film qui a été monté par ma petite sœur, juste pour précision. Eloriwa, elle a eu un enfant à 6h30 ce matin.
Oh bah alors
voilà. Donc, elle
génial,
n'a pas fait,
la famille s'agrandit.
Voilà, elle n'a pas fait que monter le film de Xavier Jans, elle a eu aussi un
enfant. Elle a eu aussi un enfant.
Qui s'appelle Ellie, une petite fille ravissante.
Eh bien, gros bisous Riwa, et puis plein de félicitations de notre part aussi.
Complètement. Et la dernière membre du jury qui est Agatha, et Steven, je te laisse prononcer son nom de famille.
D'origine, ouais, on s'est briefé un petit peu là-dessus, un nom d'origine polonaise. Elle est absolument fantastique.
Wyszewski
dans tout,
ou quelque chose comme ça.
Voilà, ouais. Voilà.
Wikośniewko. La pauvre.
C'est polonais.
Vicky, si tu nous entends, on t'embrasse.
Elle a remporté le Grand Prix Courmétrange il y a 2 ans avec son film Growing.
D'accord.
Ouais. Et on aura un 6e membre du jury qui en avait lancé un appel à devenir le 6e membre du jury à n'importe qui. Donc il fallait envoyer une petite vidéo pour se présenter pour les 20 ans. Et voilà, donc on a reçu plusieurs vidéos et on va annoncer.
Il n'est pas encore annoncé.
Non, voilà, on sait
déjà.
Oh
là là, ça tremble, ça tremble.
Et oui.
Ok. S'il y a une soirée que vous avez envie de mettre en avant, même si on a encore le temps de décortiquer dans d'autres prises d'antenne. Hein ?
Oui. Bon, ouais. On va mettre une petite musique avant.
Ah, on passe une petite. Moi, je suis bien.
J'ai
là,
déjà
tu
mis
vois.
Des doigts. Un, deux, trois doigts. Mais
moi, à force, moi, j'ai tellement de doigts chaque mardi que je ne sens plus rien. Écoutez, je suis complètement ouverte. Alors, on passe à on va faire un jingle. Hein. Le vieux morceau cool. Eh ben, le vieux morceau cool cette semaine pour moi. Encore un documentaire que j'ai vu, un petit report sur un autre documentaire à retrouver sur Arte. Putain, Arte va falloir me donner des mailles, hein, la moula quoi. Celui des mille et une vies musicales de Fleetwood Mac. Quand on parle du fameux sex, drug and rock and roll, Fleetwood Mac en est la parfaite illustration. Si vous possédez ces déchets vous l'album Rumours de Fleetwood Mac, vous avez dans votre discothèque l'un des 40 millions d'exemplaires du disque écoulé à travers le monde, soit l'un des plus vendus de l'histoire, il faut le savoir. Les deux chanteuses de Fleetwood Mac, eh bien, Stevie Nicks et Christy McVie, se sont dans Rumours envoyé des pets. En fait, elles se sont écrites des chansons et elles se sont réglées des comptes, voilà. Donc c'est ce que vous allez entendre, Dreams. C'est juste une réponse à un morceau que j'adore, Go Your Own Way, qui vous parle à mon avis. Oui. Voilà, vous êtes le Fleetwood Mac en fait. Regardez le documentaire, tout le monde baise, tout le monde s'engueule, tout le monde se fait la gueule et tout le monde reste dans le même groupe. C'est ça le Fleetwood Mac. Fleetwood Mac.
something happening here. But what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going.
C'était nos vieux morceaux cool. Moi, c'était Buffalo Springfield avec For What It's Worth. Et c'est aussi la musique de la BO d'un film. Alors, j'imagine plus d'un film.
Oui.
Mais moi, c'était sur la BO de Forrest Gump.
Forrest Gump.
Ouais.
D'accord. Ouais, dans de nombreuses.
Mais j'imagine que ça devait être dans tout trop de films.
Est-ce que ça vous parle, Steven?
Ah, ce titre-là, oui, ouais. Bien sûr. Ouais, ouais. Alors, c'est pareil, je suis comme toi, j'ai la sensation qu'il a été un peu exploité, ce titre-là, dans de nombreuses productions.
Oui,
bon, même oui je pense. Ouais.
Tu fais un film sur la fin des années 60, début des années 70, t'es obligé de mettre ce genre de musique, quoi. C'est...
Oui, c'est ça. Si tu viens en plus chatouiller le thème du Vietnam, de la guerre du Vietnam, par exemple, tu y passes aussi.
C'est
quoi.
Ça. C'est... Tout à fait. Mais je crois que c'est là, d'ailleurs, que ça passe dans Forrest Gump, c'est à ce moment-là.
On est toujours avec Courmétrange qui fête ses 20 ans cette année, je le rappelle, du 26 septembre au 6 octobre. La programmation est énorme et jusqu'au 6 octobre, vous allez en bouffer parce que de 11h à 19h, eh bien, il y a des séances. Le Courmétrange, c'est un festival évidemment, on parle de court-métrage, mais il y a quand même finalement une bonne place au long-métrage. L'Antre de la Folie, c'est bien celui auquel je pense?
Alors pas du tout, je crois que c'est en fait l'une de nos camarades qui a signé, qui a intitulé son résumé de séance de L'Antre de la Folie, mais ce n'est pas le film de John Carpenter.
D'accord.
Voilà, mais okay. Je trouve que c'est d'ailleurs tout à fait audacieux de sa part, et voire même assez répréhensible.
Oui, parce qu'il y en a peut-être beaucoup qui vont prendre leur place pour ça.
C'est peut-être une stratégie commerciale.
Il y a plusieurs ciné-débats pendant le festival.
Oui, il y en a quatre. Du coup, qui auront lieu à 13h30 du mardi au vendredi à l'Arvor.
Ouais. Il faut être au chômage, quoi.
Exactement. Non, ça cible une partie du public scolaire.
Ouais.
En premier, après.
Avec des scolaires qui feront débat.
Ouais, en partie, c'est des courts-métrages. Il y a une bonne partie des courts-métrages qui sont diffusés, qui ont été réalisés dans l'année lors d'ateliers. Donc, il y a par exemple un ciné-débat sur la conduite responsable avec 5 courts-métrages qui ont été réalisés à Lyon avec une auto-école sociale où on a fait des courts-métrages sur la sécurité routière en mode fantastique et décalé.
D'accord.
Ouais, donc, c'est intéressant. Donc, comme disait Steven, comment le fantastique permet d'évoquer tous les sujets. Donc, voilà, donc, il y a la conduite responsable, il y a sur l'environnement, il y a une séance sur génération numérique. Et une séance en breton avec des courts-métrages qui ont été doublés par des jeunes En breton.
Qui parle encore breton.
Et oui. Moi, et lui de Oostagen, dont 16 brezons, Nick.
Mais oui.
C'est là le côté surnaturel.
Quelle saucisse.
Nemusket comprenait Petra Teslaret.
Mais oui.
Des jeunes qui parlent breton. C'est court-métrange, non?
Eh bah écoute, à la veille de Yawank, Nedad Absolutely.
C'est
ça. Fabulous.
Ah, Nemusket comprenait. Petra Teslaret.
Tu parles vraiment breton ou tu
non,
fais.
Non, pas du tout. C'est les seules choses que j'ai retenues parce qu'effectivement, mes deux sœurs et ma fille sont passées par la case, case bretonnante à un moment donné dans leur scolarité. Voilà.
T'évoquais, Benoît, un petit côté politique et justement, ça me fait rebondir là-dessus. Cette année, la ministre de la Culture, Rachida Dati, on n'a que ce qu'on mérite, s'est déplacée au festival du court-métrage, pas du court-métrage de Clermont-Ferrand. La politique a sa place dans le cinéma et plus précisément dans le court-métrage.
Oui, complètement. Je l'ai croisée à Clermont quand je partais, elle arrivait.
Elle est bonne.
Mais j'ai vu sa voiture.
Ah ouais.
Seulement.
Eh bah, sa voiture était pas mal, je pense.
Sa voiture était pas mal. Elle n'était pas toute seule. Il y en avait plusieurs. Non, oui, je pense que le court-métrage est un bon média pour débattre justement et évoquer ses idées et faire passer des messages comme le cinéma dans son ensemble. Mais le court-métrage, encore plus, je pense.
Si vous deviez inviter un politique chez vous, ce serait qui?
Michel Sardou.
Bah, tout à fait.
moi, j'y pense depuis très longtemps.
Le court-métrage est de droite alors?
Non, mais j'avais envie de faire, pour rire, j'avais envie de créer un festival du film de droite. Mais
tu sais que t'es son sosie de voix, hein. T'as un petit peu la même voix que Michel Sardou.
Ah la vache.
Ouais.
Ça arrive souvent en plus quand tu nous chantes le lac.
Femme des âmes et si ah non, tu pourrais qu'il nous le fasse en karaoké.
Non, parce que moi je chante du Daniel Guichard, moi, plutôt le soir.
Alors ça, c'est la coiffure, mais...
Coiffure. Mais tu es odieuse.
Mais je peux me permettre maintenant que je te connais bien. Bah si, quand même, un petit peu. Bah, les cheveux gris, quoi.
Les cheveux gris.
C'est très joli, c'est tu sais, chez un homme, Benoît.
Bon, écoute,
dès que tu auras les cheveux gris, tu vas voir. Là, c'est pécho à mort.
Ouais, fais un effort, Benoît.
Fais un effort
arrive,
de vieillir, merde. Donc oui, Michel Sardou, bah écoute, il va être temps là, les gars. Parce que moi, je vous ai dit, pour mes proches, j'ai une chanson de Michel Sardou depuis 2 jours dans la tête. Et il ne nous écoute pas, il est sur son TikTok, Thibaut, mais il peut savoir que quand je pense, non pas à Fernande, mais à une personnalité, en général, il se passe une mort derrière.
C'est vrai, j'ai lu que tu avais mis un truc là-dessus.
À moi, c'est terrible.
Pourtant, on en parle depuis des années de
chez
Mille.
On essaye, hein. Ouais, c'est sûr.
Il y a trop de gens qui sont partis trop tôt à cause de nous, là, putain.
Ouais, bah, j'essaye de faire des références à MFM pour Benoît. T'as vu, Hélène Segarra.
J'ai vu tous les titres. Mais le samedi, je mets la petite pub en même temps, samedi 28, soirée anniversaire court-métrage où il y aura un karaoké.
Donc, ah ouais?
Ouais, donc je vais essayer de glisser quelques chansons, mais pas tout évidemment. Mais il y aura peut-être un Sardou ou Segarra du coup qui se glissera dans
ah
la playlist.
Ah là là, formidable, on a hâte.
Oui.
Important de préciser aussi que le samedi 28, il y a des films qui vont être proposés en exclusivité, des longs-métrages en exclusivité, des longs-métrages fantastiques. Voilà, ça aussi nous le devons au travail de Benoît et d'Adeline quand même, parce qu'il faut quand même évoquer ta complice dans l'histoire avec The Complex Forms
de Fabio Dorta
et Late Night with the Devil. Alors c'est Kevin Smith qui a dit que c'était Rosemary's Baby meets Network. Alors
ah ouais.
Donc deux
c'est
films
bizarre.
Qui sont relativement opposés. Voilà. Donc c'est très, très important quand même de savoir qu'il y a aussi des longs métrages en exclusivité qui vont être proposés dans notre programmation. Voilà.
Qui sont une carte blanche du festival Greenhouse Paradise de Toulouse.
En dehors du fantastique, il y a des séances horreur.
Horreur, pas spécialement, mais en tout cas toutes les séances le plus tard sont souvent les plus
gore.
Difficiles, on va dire.
Oui, enfin les plus... Oui, on se libère, on se décomplexe un petit peu sur la question de l'intellect et on va chercher peut-être des endroits qui font un peu plus mal. Mais il y a un petit... tu parlais de Nostalgie tout à l'heure, il y a quand même Carrie de Brian De Palma qui va être rediffusée et je pense que c'est une expérience intéressante pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Carrie au bal du diable,
à l'Arbor. Ouais. Très joli moment de cinéma pour moi en tout cas, mais je l'ai découvert tard moi-même, hein. Faut pas croire, je suis pas si vieux.
Mais on n'a jamais dit ça, c'est pas parce que t'as les cheveux gris.
Je vois dans ton regard.
Non, pas du tout. Thibaut commence à en avoir deux. Donc et vous n'êtes pas
ça,
si loin. On fait une pause musicale avec, tu m'avais supputé, Predator. Voilà, et encore une fois, j'ai pas réussi à trouver radiophoniquement ce que c'était. Du coup, en faisant des recherches, eh bien écoute, je te propose Predator X, King Gizzard and the Lizard Wizard et un côté bien métalleux qui pourrait aussi faire partie d'une BO de Predator.
For I'm
Je voulais en parler les semaines précédentes. Donc c'est un groupe qui s'appelle Crazy P, qui est passé au Made Festival il y a 2 ans, dont j'ai eu l'occasion de m'occuper. Et malheureusement, leur chanteuse Danielle Moore est décédée début septembre de façon assez soudaine. Et voilà, c'était pour rendre un petit hommage, parce que c'était vraiment une personne absolument excellente avec qui j'ai passé un très bon moment.
Et on ne se serait pas du tout dit que ce serait passé au Maid et aux Rantaines. Non, normalement, vraiment que ça faisait.
Ouais, j'ai pris un morceau.
D'Eddie Murphy, quoi.
Un vraiment. Morceau, ouais. Mais sinon, non, c'est de la house. Et c'est de la vraie house. Et chanter sur scène, comme c'était écouté de la house des années 80.
Comme
90.
Massive Attack, qui avait ses propres chanteuses.
Voilà. Et donc, voilà. Et pour l'info, c'est un groupe qui s'appelle Crazy P. Ça veut
Crazy
dire
P.
Crazy Penis, à la base. Mais,
Ah, bah moi, j'aime beaucoup. D'accord. Oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit Penis à l'antenne.
Mais c'est en tout cas un excellent groupe. Et. Voilà, c'est une perte tragique pour le
groupe,
pour la musique électronique en règle générale. Voilà.
Dernière partie d'antenne avec les 20 ans de Courmétrange qui auront lieu, je le rappelle, du 26 septembre au 6 octobre et notamment sur la place Charles de Gaulle et dans tous les cinémas et les meilleurs lieux de Rennes. Benoît, il y avait deux focus sur lesquels tu voulais, avant qu'on se quitte.
Oui. Je voulais faire un petit focus sur la séance L'Omnimeute, le dimanche à l'Arvor, qui est une collection de courts-métrages réalisés par Fermeute, donc qui ont réalisé 4 courts-métrages sur la monstruosité, et du coup qui seront diffusés en avant-première à Courmétrange. Et sinon, l'autre focus, c'est le long-métrage de Julien Amoury et Alexandre Boustillo, qui reviennent cette année, avec leur nouveau film Le Mangeur d'âme, qui est sorti cette année, et qui est un inédit à Rennes.
Voilà. D'accord.
Et qui sera repâté le lundi.
C'est un focus express.
Oui, focus express.
C'est le stress qui... Un focus express.
Pour tout.
Ok, d'accord. Est-ce que, Steven, tu voulais refaire un focus sur autre chose ?
Non, non, c'est bien parce que Benoît a parlé des choses absolument essentielles et c'est vrai qu'avec Omnimeute et Fermeute, c'est un collectif quand même de jeunes gens qui sont très
Fermeute
très engagés.
Fermeute qui commence à faire parler d'eux. Hein.
Ah, tout à fait, et c'est vraiment important qu'on accompagne autant que faire se peut avec nos faibles moyens cette production-là et qui témoigne d'une certaine vitalité dans le domaine de la production. Ce sont des gens qui ne s'arrêtent pas aux seuls moyens officiels pour pouvoir produire des films, ils s'emparent du sujet, ils disent on y va.
En tant que, justement, on parle un petit peu pépette, mais en tant qu'association de cinéma, est-ce que ça suit derrière les subventions ? Nous, on reçoit beaucoup d'associations musicales, c'est la guerre. Ici, il y a quand même pas mal de festivals. Je parle à Rennes comme en Bretagne, de festivals. D'ailleurs, en même temps que vous, il y aura le festival de Dinard. Non, juste après vous, d'ailleurs. Pas en même temps que vous. Mais bon, ça se suit. Est-ce que c'est suivi derrière ? Est-ce que vous avez d'autres moyens de vous retourner ?
Alors oui, je ne pensais pas qu'on allait aborder cette question petit peu douloureuse, mais c'est pas mal, finalement c'est bien, parce que ça permet aussi de dire aux spectateurs et spectatrices qui viennent assister au festival qu'il y a un geste un peu politique et culturel important en venant nous soutenir, parce que ça ne va pas bien sur le plan des finances, et on ne peut pas s'en prendre nécessairement aux bailleurs de fonds habituels en disant « ouais, c'est pas la région, c'est la ville, c'est le machin ». Non, ce ne sont pas les méchants de l'histoire, les décisions viennent de plus haut. Alors, jusqu'où peut-on remonter ? Je ne sais pas. Une forme d'Himalaya inatteignable, de toute façon, dans le domaine. Donc, c'est oui, non. Globalement, la situation financière des festivals, des événements culturels et du cinéma, même plus globalement, n'est pas des plus souriantes. Voilà.
Ouais. La région, la ville vous suit, oui. Mais au-dessus, il y a des subventions qui sont de plus en plus... Voilà. Serré, quoi.
Voilà.
On ne dénonce pas, quoi. Ça, c'est marrant, hein. Les festivals qui ne se bouillent pas. Bah, tout va à mythos, hein. De toute manière, c'est toujours le même problème.
Y compris les humiliations de Noël à la fin.
Oui, maintenant. Putain. Maintenant qui...
Cette blague, là.
Ouais. Alors, j'ai eu un commentaire comme quoi, on ne connaît pas le fin mot de l'histoire, évidemment. La presse s'empare du sujet, comme quoi Monsieur Mythos aurait pris un petit peu spectaculaire. Donc, ceux qui font nos illuminations de Noël et de l'été.
Ah, c'est la boîte spectaculaire, je veux dire.
La boîte spectaculaire. Mais en forme, tout ça. Et puis, Maëlle Le Goff... a encore mis ses billes, un petit peu comme un Balkany breton. Voilà, donc 2 Tesla sont en cours d'achat pour le festival Mythos.
Il était temps.
Il était temps parce qu'il n'y avait pas assez pour trimballer Véronique Sanson l'année prochaine. On parlait de politique, donc c'est politique alors, hein, du coup.
Oui, complètement.
Pour m'étrange, c'est politique.
Ouais, ouais. Les sujets, tout apporte, les discussions, les rencontres peuvent aussi... tout a un lien avec la politique et les sujets du coup, qui sont abordés. Je pense que l'art, en général, de toute façon, est politique.
Ouais. Et voilà. On ne va pas aborder faut-il séparer l'homme de l'artiste, non. Mais j'ai plutôt une autre question. C'est quoi votre premier souvenir de cinéma dans votre vie ? Je sais que Steven, ça remonte à loin. Mais
oui, parce qu'on m'a déjà posé la question, donc j'ai fermé ma tronche.
Bah non.
Ah bah moi, le premier film que j'ai vu, le premier long métrage en salle, c'est Les Dix Commandements de Cécile B. 2000 avec Charlton Heston. Et c'est pourquoi j'ai choisi une orientation religieuse dans ma vie ensuite.
D'accord, voilà. C'est grâce à un film.
C'est grâce à un film que j'ai été au couvent jusqu'à l'âge de 31 ans à peu près.
Putain, heureusement que t'as pas vu Bénure. Benoît,
J'ai pas le film en tête, mais en tout cas c'est des bons souvenirs avec ma grand-mère qui nous emmenait au cinéma de Sarzeau. D'ailleurs, Steven aussi.
Mais j'ai connu le cinéma de Sarzeau.
Avec tous mes premiers films et mes premières séances là-bas du coup.
Merci messieurs. Je rappelle donc que le court-métrage commence le 25 septembre, le 26 septembre et finit le 6 octobre avec entre-temps une inauguration de dingue. J'espère qu'il y aura un blind test. On termine et merci à l'année prochaine.
Merci à vous. C'est un plaisir de
vous recevoir. En termes de BO génial mais classique, on a bien entendu celle de Good Morning England de Richard Curtis avec un casting de dingue, Philip Seymour Hoffman, Rissi Fan, Bill Nighy, Dyke Frost, Kinnick Branagh. Good Morning England raconte en 66 histoires d'une radio pirate fictive et de son équipage de disc-jockeys éclectiques qui diffusent du rock'n'roll et de la musique pop au Royaume-Uni à partir d'un navire ancré dans la mer du Nord, tandis qu'ils sont confrontés aux efforts du gouvernement britannique afin de les stopper. C'est un petit peu ce qu'on vit parfois à Canal B. On se quitte là-dessus avec The Easy Beats Friday on My Mind. Bonne semaine à tous. Salut Thibaut.
Salut.
Salut. No one, nothing else that